VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce vendredi 20 février 2015. À la une ce soir.
En Somalie, une attaque d'Al-Shabaab fait au moins 25 morts.
Au Nigeria, le groupe terroriste Boko Haram a lancé de nouvelles attaques et en fait environ 30 morts.
Au Burundi, le pouvoir met en garde contre toute tentative de soulèvement.
La Grèce va-t-elle rester dans la zone euro? C'est le vœu exprimé en tout cas aujourd'hui par l'Allemagne et ses partenaires européens.
Avec l'envoyé spécial de VOA Afrique, on aura un avant-goût de la cérémonie et des Oscars.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Au moins 25 personnes ont été tuées, y compris l'adjoint au maire de Mogadiscio et une dizaine d'autres blessés dans une attaque contre un hôtel fréquenté par les travailleurs et les membres du gouvernement somalien. On fait le point avec Bagassi Koura.
Oui, selon des témoins, c'est une voiture piégée qui a explosé au Central Hotel au moment où les musulmans finissaient la prière du vendredi. Puis une fusillade a éclaté entre les assaillants et les forces de sécurité. Le porte-parole des forces de l'ordre, Kassim Ahmed Robol, a déclaré à la VOA qu'on ne sait pas comment les assaillants ont pu entrer dans l'enceinte de l'hôtel. Il explique qu'ils sont en train d'étudier qui a fait exploser la voiture et comment. Les responsables de la sécurité interrogent les gardiens de l'hôtel. Robol affirme que le maire adjoint Mohamed Aden Gouled est parmi les victimes et 3 ministres ont été blessés. C'est la deuxième attaque contre un hôtel à Mogadiscio en moins d'un mois.
La branche libyenne du groupe État islamique a revendiqué les attentats perpétrés ce vendredi à Al-Kouba dans l'Est libyen qui ont fait au moins 31 morts et 40 blessés. Claire Morin-Gibourg.
Dans un bref communiqué signé par la filiale de la Cyranéique de l'État islamique, le groupe terroriste dit avoir voulu venger le sang de nos musulmans à Derna, place forte des islamistes radicaux visés cette semaine par des raids aériens libyens et égyptiens. L'État islamique se félicite d'avoir tué et blessé des dizaines de personnes lors de ces attaques et affirme avoir visé le centre des opérations du général Khalifa Haftar. Appuyé par le Parlement et le gouvernement, reconnu par la communauté internationale, le général Haftar mène depuis plusieurs mois une opération contre les terroristes dans l'est du pays. Ses forces ont affirmé avoir coordonné avec l'armée de l'air égyptienne les frappes menées lundi contre des positions présumées de l'État islamique à Derna. L'Égypte avait mené ses raids en représailles à l'annonce par le groupe terroriste de la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens.
Au moins 30 personnes ont péri jeudi dans des attaques de Boko Haram. Les combattants de la secte islamiste ont attaqué 2 villages près de Chibok, dans le nord-est du Nigeria, où le groupe islamiste avait enlevé plus de 200 lycéennes en avril dernier. On fait le point avec Issia Kaba.
Les villages de Tlema Kalama et Gatamarwa, cibles des attaques, ont été rasés, incendiés par les islamistes qui ont fait irruption à la mi-journée d'après l'AFP, qui cite Pogo Bitrus, le chef du conseil des anciens de Chibok. Il y a 4 jours, les islamistes avaient mené une attaque similaire et rasé la localité d'Askira Uba dans la même zone. Selon Pogo Bitrus, les hommes qui ont attaqué les 2 villages ce jeudi fuyaient Askira Uba, où des soldats ont été dépêchés après l'attaque du 16 février. Certains assaillants ont fui en direction de Gouoza, près de la frontière avec le Cameroun, et dans la forêt de Sambisa, où Boko Haram dispose de camps de fortune. Chibok était devenu célèbre en avril 2014, lorsque Boko Haram y avait enlevé 276 lycéennes, provoquant une indignation mondiale et une mobilisation internationale sur les réseaux sociaux pour réclamer leur libération. 57 des jeunes filles ont réussi à s'enfuir, mais depuis 10 mois, les autres sont toujours portées disparues.
La présidente du Liberia, bientôt à Washington. Barack Obama recevra Ellen Johnson Sirleaf la semaine prochaine, plus précisément le 27 février, à la Maison-Blanche. C'est ce qu'indique l'AFP.
En Centrafrique, une 20aine d'organisations de défense des droits de l'homme proposent la création d'une cour pénale spéciale pour juger les crimes perpétrés dans le pays depuis le 1er janvier 2012. La demande a été adressée au CNT, le Parlement de transition.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur a mis en garde contre toute tentative de soulèvement dans le pays au lendemain de la grande manifestation de soutien à Bob Wugurika, le directeur de la radio publique africaine, tout juste libéré sous caution. Le gouvernement accuse l'opposition, qui est prête, selon lui, à tout faire pour saboter les élections à venir.
Conflit au Soudan du Sud, la délégation gouvernementale a quitté Djouba pour Addis Abeba, où doivent reprendre des pourparlers de paix. Selon l'AFP, l'organisation intergouvernementale est-africaine donne aux belligérants jusqu'au 5 mars pour trouver un accord définitif.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, 2 soldats ont été tués et 3 blessés au cours des dernières 24 heures, a annoncé ce vendredi un porte-parole de l'armée gouvernementale. De son côté, l'administration séparatiste de la ville de Donetsk, fief des rebelles, a affirmé qu'une femme, civile, a été tuée dans un bombardement. Un survol de la crise ukrainienne avec Jacques Aristide.
Une trêve qui n'en est pas une, mais les dirigeants occidentaux continuaient ce vendredi de pousser au respect des accords de Minsk. À Paris, la chancelière allemande a estimé que le processus de paix en Ukraine prendrait du temps. Angela Merkel a appelé, comme le président français François Hollande, à la fin des combats. Ce vendredi encore, les rebelles pro-russes ont indiqué vouloir échanger les 100 soldats ukrainiens qu'ils ont capturés pendant la débâcle de Debaltseve avec ceux détenus par Kiev, ce que le gouvernement du pays n'a pas confirmé. Washington a accusé les rebelles d'avoir bafoué le cessez-le-feu plus de 250 fois. Au sujet de la demande de l'Ukraine pour une mission de police de l'Union européenne dans l'est du pays, la commission de l'UE a appelé les autorités ukrainiennes à ne pas spéculer à ce propos, affirmant qu'il fallait plutôt se concentrer sur l'application du cessez-le-feu. Pour sa part, le porte-parole du Haut Commissariat aux droits de l'homme s'est dit profondément inquiet du sort des civils, des prisonniers et des blessés à Debaltseve. Le bilan du conflit d'après Rupert Colville s'établit maintenant à près de 5700 morts depuis avril 2014.
La Grèce devrait rester dans la zone euro, c'est l'opinion des leaders européens, alors que les ministres des Finances des 19 pays membres peinaient à trouver un compromis sur le prolongement de la dette grecque qui expire dans 8 jours. Lors d'un point presse à Paris, en compagnie du président François Hollande, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que Berlin ferait tout pour éviter la sortie de la Grèce. Cependant, l'incertitude planait encore vendredi après-midi à Bruxelles, suite aux discussions compliquées entre Athènes et ses partenaires européens.
Pour parler sur le nucléaire iranien, des rencontres sont prévues aujourd'hui et demain entre le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Arachi et le numéro 3 du département d'État Wendy Sherman, en préparation à la réunion des directeurs politiques du groupe 5+1 dimanche à Genève. En outre, le secrétaire d'État John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif doivent s'entretenir de nouveau en présence d'un diplomate de l'Union européenne avant la réunion du 22 février. Les grandes puissances et l'Iran négocient depuis plus d'un an un accord global sur le programme nucléaire de Téhéran pour mettre fin à plus de 10 ans de crise diplomatique.
Les enquêteurs de l'ONU sur la Syrie ont publié aujourd'hui leur 9e rapport, se disant prêts à rendre publique une liste confidentielle d'auteurs de crimes de guerre qu'ils ont dressés depuis 3 ans. Ce rapport intervient quelques jours avant la session de mars du Conseil des droits de l'homme à Genève. Mais les enquêteurs onusiens ne veulent pas s'arrêter là. Ils appellent à la poursuite en justice de tous ceux qui ont commis des crimes de guerre dans le conflit syrien. Cette guerre civile a déjà fait plus de 210 000 morts et des millions de réfugiés et des déplacés.
Les forces politiques yéménites ont avancé vers un accord pour mettre un terme à la crise qui secoue le pays depuis la prise du pouvoir par la milice chiite des Houthis. Selon l'émissaire de l'ONU Jamal Ben Omar, que cite l'AFP, le Yémen est plongé dans le chaos depuis la montée en puissance de la milice des Houthis. Entrée en septembre dans la capitale Sanaa, elle s'est emparée fin janvier des bâtiments officiels, poussant à la démission le président Abed Rabdo Mansour Hadi et le premier ministre Khaled Baha, assignés à résidence.
Au Venezuela, les forces de sécurité ont arrêté et emprisonné Antonio Ledesma, maire de la capitale Caracas et le leader de l'opposition. Il est accusé d'avoir pris part à un projet de coup d'État contre le gouvernement socialiste. Comme d'habitude, le successeur de Hugo Chavez, Nicolas Maduro, pointe du doigt Washington, mais sans fournir de preuves.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Jacques Aristide.
Des travaux urgents de rénovation du grand barrage hydroélectrique de Kariba entre le Zimbabwe et la Zambie vont démarrer cette année pour éviter une catastrophe grâce à un accord de financement international qui devait être signé ce vendredi. Le barrage sur le fleuve Zambèze a été construit en 1959. La rénovation va durer de 8 à 10 ans et coûter près de 300 millions de dollars. L'AFP rapporte que la Zambie et le Zimbabwe ont obtenu des prêts de l'Union européenne à hauteur de 100 millions de dollars, de la Banque mondiale à 75 millions, de la Banque africaine de développement 75 millions et de la Suède 25 millions et les deux pays financeront le solde. En parlant de la Banque africaine de développement justement, le comité directeur de son conseil des gouverneurs a rendu public ce vendredi la liste des candidats à l'élection du prochain président de la BAD en remplacement du Rwandais Donald Kaberuka. 8 prétendants lisses, le Malien Birama Boubacar Sidibé, vice-président de la Banque islamique de développement, Bedoumra Kordje, ministre tchadien des Finances, Christina Duarte, ministre des Finances du Cap-Vert, Samoura Camara, ministre Sierra Leone des Affaires étrangères, Akinwumi Adesina, ministre nigérian de l'Agriculture, le Zimbabwéen Thomas Sakala, un ancien de la BAD, Jaloul Ayed, ex-ministre tunisien des Finances, et Soufiane Ahmed, le grand argentier de l'Éthiopie. Le nouveau patron sera connu le 28 mai prochain.
Après la page économie, place au sport avec Bagassi Koura. Bonsoir Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Nous allons commencer par Amissa Bongo, c'est la 5e étape de ce tour cycliste du Gabon.
Oui, et c'est le Belarus Yoheni Utarovic qui s'est imposé au sprint lors de la 5e étape de la Tropicale Amissa Bongo ce vendredi, disputée sur 53 km entre Lambaréné et Kango, offrant une deuxième victoire en 3 jours à Bretagne Séché, l'équipe donc environnement. Et selon l'AFP, Chérubin, le coureur belorusse a devancé l'un des favoris, le français Johan Gène, une nouvelle fois deuxième. Le peloton de la Tropicale est attendu ce soir même à Port-Gentil pour un contre-la-montre par équipe de 8,5 km en nocturne. Tu as encore du temps pour rejoindre le groupe.
Une mise à jour bagassée sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans.
Oui, les Ivoiriens champions en titre ont réussi à renverser la vapeur devant le Cameroun au terme d'un match dominé de bout en bout par les Lions indomptables, menés 1-0 pendant plus de 70 minutes de jeu. La Côte d'Ivoire a réussi à marquer 2 buts en seconde période pour s'imposer finalement et conforter ses chances de qualification. Les Camerounais peuvent avoir des regrets, Chérubin. Dernier du groupe B avec 0 point, ils sont éliminés. Quant au Mali, il partage la première place de ce groupe après son match nul, donc 2 buts partout face à l'Afrique du Sud.
Et le TAS, le tribunal arbitral du sport, a rejeté l'appel du comité de normalisation de la FECAFOOT.
Oui, la FECAFOOT, c'est la Fédération camerounaise de football. Et le TAS a suivi la décision du comité olympique camerounais invalidant l'Assemblée générale du 23 août 2014. Les juges du sport ont définitivement donc tranché le litige qui opposait les dirigeants de la FECAFOOT à Abdourahmane Amadou et Antoine Essomba Eyengue, deux de ses ex-dirigeants passés dans l'opposition. Les deux hommes avaient saisi il y a 4 mois la chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour contester la décision de la FIFA de convoquer via le comité de normalisation l'Assemblée générale constituée en 2013. Et les plaignants donc estimaient que seule l'Assemblée générale constituée en 2009 était habilitée à le faire. Eh bien, aujourd'hui, ils n'ont pas gagné gain de cause.
Oui.
Ils n'ont pas eu gain de cause.
Un mot de la NBA, le championnat de basket professionnel nord-américain, pour terminer.
Voilà, on avait abandonné la NBA depuis la CAN. Et là, on revient là-dessus pour signaler que Dallas, en déplacement à Oklahoma City, les partenaires de Serge Ibaka l'ont emporté 104 à 89. Le Congolais, il faut le dire, a inscrit chez Roubaix 21 points.
Et les partenaires d'Ibaka sont d'Oklahoma?
Oklahoma, ok, si.
Bien sûr. Merci Bagassi Koura.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Robin Dorcil et Morgane Guerrier en votre compagnie. Place au dossier du jour. On commence au Mali, où notre correspondant Kassim Traoré a recueilli les réactions des Bamakois suite à l'accord de cessation des hostilités signé à Alger entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord.
Les Bamakois suivent de près le cinquième round des pourparlers d'Alger. La signature de la déclaration de cessez-le-feu est diversement appréciée par les habitants de la capitale malienne.
Je crois que des gens en sont là en train de mourir chaque jour par le MNLA. Et à chaque fois, on voit que les gouvernements qui sont supposés nous aider, chaque fois sont à Alger, ils savent même pas ce qui se passe au nord. Et chaque fois, ils sont là à nous emmerder comme quoi cessez-le-feu, je sais pas, traité. Nous, on en a plus que marre. On veut que le gouvernement prenne ses positions une fois pour toutes.
Moi, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que actuellement, vous n'êtes pas sans savoir que le Mali et ses groupes armés sont à Alger actuellement pour la négociation. Donc ça permet de donner une chance à cette négociation-là. Donc si déjà les deux parties décident de cesser les hostilités, moi je pense que c'est une très bonne chose. Ça peut donner l'espoir au peuple malien comme quoi que, on va avoir une issue favorable à ces négociations qui se déroulent actuellement à Alger.
Pour certains protagonistes, la signature de cette déclaration peut se traduire par des actes concrets sur le terrain. Ali Ouldou Amaha, membre du MAA.
Avant de signer des accords, il faut que les gens se fassent confiance. Il faut des patrouilles mixtes, il faut la CTM, il faut les IMOV. Il faut vraiment déjà récupérer la mesure de confiance entre la coordination et la plateforme, entre l'État et les restes des mouvements, je dis bien tout le monde, et que les gens se mettent ensemble en patrouille, rassurer toutes les populations, voir les mouvements, tous les mouvements, je veux dire, et l'armée nationale, plus le reste des forces étrangères sur place, surtout les forces des Nations Unies. C'est ce qui est plus important. Il faut déjà la mesure de confiance et ensuite aller vers des accords définitifs.
Certains ressortissants des régions nord du Mali étaient en conclave à Bamako. Pour eux, la signature de cette déclaration est un début de solution.
Ça va créer un peu de confiance entre les uns et les autres. Ça va faire un climat sain pour la négociation. La situation s'est dégradée sur le terrain. Il y avait des combats qu'on nous signale un peu partout sur l'étendue du territoire. Et étant dans des situations pareilles, la négociation ne pourrait pas vraiment avancer de la manière qu'on le veut.
Je crois que quand il y a cessé le feu bien respecté, ça veut dire qu'il y aura une liberté de circulation des personnes et de leurs biens, les mouvements des gens. Moi, je crois que ça va apaiser un peu les souffrances des populations. Ça va laisser la chance à la paix pour que les gens négocient et que les gens comprennent que c'est la voie, elle est incontournable. Il n'y a que la paix. Mais nous savons qu'un cessé le feu, pour aller à la paix, ça vaut mieux que d'aller à un conflit.
En tout cas, les différents protagonistes ne sont pas à leur première signature de cessation des hostilités sur le terrain. Cette deuxième sera-t-il la bonne? Wait and see. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
En RCA, les travaux préparatoires du Forum intercentrafricain de Bangui vont bon train. Quatre principaux thèmes seront débattus au cours de ces assises. La présidente du comité préparatoire, Madame Béatrice Epaillé, au micro de Félix et Passis Zembrou.
Nous avons identifié quatre thématiques. Il y a la thématique qui concerne la paix et la sécurité, où on va aborder les questions de DDR, RSS, et la construction de la nouvelle armée centrafricaine. On va parler de la gouvernance politique et nous avons voulu exprès sortir la gouvernance économique pour en faire une thématique de développement économique et social. Il y a la thématique justice et réconciliation. Donc c'est ces grands axes qui feront l'objet du débat au Forum national de Bangui.
Et quand est-ce qu'il aura lieu ce Forum de Bangui?
Bon, pour l'instant, on n'a pas encore fixé de date, puisque c'est le rôle, c'est la mission de la commission préparatoire du Forum national de Bangui. Nous avons, dans un premier temps, travaillé sur les thématiques, c'est-à-dire identifier d'abord les thématiques. Et on a mis un chronogramme en place, et c'est pour la commission préparatoire. À la fin de la mission de la commission préparatoire, nous allons déposer un rapport à la communauté internationale, aux autorités de la transition et au médiateur international qui est le président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo. Donc c'est la fin de nos une autre mission qu'on pourra donner une date. Pour l'instant, on ne peut pas, on n'a pas encore terminé notre mission, donc je vais parler de la date du forum. Mais ça sera imminent puisque c'est une mission de très court terme.
Madame Béatrice Epaye, présidente du compte préparatoire du forum de Bangui.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine à Bangui sur 101.7 FM.
Moins précis, mais beaucoup plus rapide. C'est le principal atout d'un nouveau test de diagnostic du virus Ebola. Le kit développé par la société Cogenix Medical a été approuvé aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé. Facile à mettre en œuvre, ne nécessitant aucun courant électrique, il permettra de donner un résultat en un quart d'heure. Pour en savoir plus, nous avons joint par téléphone Tariq Chazarevitch, il est porte-parole de l'OMS.
Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est juste donner l'accord et déclarer que ce test particulier remplit les conditions d'efficacité et de sécurité. Et donc, il peut être utilisé dans les pays affectés. Maintenant, il faut vraiment voir déjà quel va être le coût. Le coût de ce test n'a pas encore été fixé. Il faut aussi que le producteur finisse un peu les procédures administratives aux États-Unis. Et donc, en ce moment-là, on va donc voir comment le test peut être mis à la disposition dans les trois pays et donc qui sera intéressé vraiment de financer l'arrivée de ce test en Guinée, Sierra Leone et Liberia.
Alors, l'Ebola, vous le savez, c'est toujours une menace qui persiste. Est-ce que vous croyez que ce test va contribuer à éradiquer le fléau?
Donc, c'est un outil parmi d'autres. Et c'est un outil qui prouve que quand il y a vraiment une volonté, on peut accélérer la recherche. On espère d'avoir le résultat positif pour les tests de vaccins. Mais ceci dit, ça ne va pas en soi arrêter cette épidémie. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est aller dans la communauté, faire la surveillance, faire la recherche active des gens qui ont Ebola. Donc on a passé de ce stade où on essayait de construire les centres de traitement et avoir assez de laboratoires. Maintenant, on a des capacités sur place, mais pour arriver à zéro cas, ce qui est l'objectif, il faut vraiment aller dans la communauté, il faut trouver les gens malades, les isoler, leur fournir une prise en charge. Et donc ça va prendre du temps. Et pour cela, il faut vraiment qu'on continue à avoir nos équipes sur le terrain.
Tariq Chazarevitch, porte-parole de l'OMS, joint par Salwa Jafari.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Dans deux jours et quelques heures, le monde du 7e art connaîtra les grands vainqueurs de la cérémonie des Oscars.
Alors, quel film Morgan succédera à 12 Years a Slave, qui succédera à Cate Blanchett et Matthew McConaughey?
L'Afrique va-t-elle triompher avec Tombouctou, comme plus d'un l'espère? VOA Afrique sera en votre compagnie du tapis rouge à la remise des trophées. Sur place, notre envoyé spécial, Roger Muntou.
À quelques jours, l'ambiance continue à s'accentuer ici à Hollywood, Morgan. Et on voit continuer à voir, bien sûr, la circulation qui devient difficile pour tout le monde. Les hôtels qui sont complètement full et les restaurants full aussi, pourquoi pas. Déjà, les routes des blocs, des avenues continuent à être bloquées et l'ambiance continue, comme j'ai dit, les Africains, les Américains qui sont aussi en ville, tout le monde vient. À l'aéroport, on voit beaucoup des gens arriver seulement pour ce grand événement, Morgan.
Et comment l'Afrique est-elle représentée cette année?
Alors, l'Afrique est très bien représentée, je dirais, parce que non seulement il y a ce film dont tout le monde est en train trentaine. Parler, bien sûr, Timbuktu, le film d'Abdourahmane Sissako, mais il y a aussi un documentaire, Morgan, que les gens oublient de mentionner, c'est Virunga. D'abord, Timbuktu, c'est le film, comme j'ai dit, d'Abdourahmane Sissako, un film qui un peu dépique la vie des djihadistes et des musulmans qui vivent, n'est-ce pas, au nord du Mali. Mais ce documentaire, dont je vous dis Virunga, qui est tourné aussi en République démocratique du Congo, Virunga, c'est un film documentaire réalisé par le Britannique Orlando Von Eisedel, mais produit par Leonardo DiCaprio, qui met en lumière la lutte des gardes du parc des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo. Et on sent très bien que Leonardo est très impliqué là-dessus, parce que là, il s'intéresse et il veut intéresser à son public à la sauvegarde des gorilles d'Afrique, Morgane.
Salut les amis, Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque vendredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique des Caraïbes. Ne ratez pas votre émission interactive. Participez en direct. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, un rappel de quelques grands points de l'actualité.
La Grèce devrait rester dans la zone euro, c'est l'opinion des leaders européens, alors que les ministres des Finances des 19 pays membres peinaient à trouver un compromis sur le prolongement de la dette grecque qui expire dans 8 jours.
Pour parler sur le nucléaire iranien, des rencontres sont prévues aujourd'hui et demain entre le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi et le numéro 3 du département d'État Wendy Sherman, en préparation à la réunion des directeurs politiques du groupe 5 plus 1 dimanche à Genève.
Les enquêteurs de l'ONU sur la Syrie ont publié aujourd'hui leur 9e rapport, se disant prêts à rendre publique une liste confidentielle d'auteurs de crimes de guerre qu'ils ont dressés depuis 3 ans.
Au moins 25 personnes ont été tuées, y compris l'adjoint au maire de Mogadiscio et une dizaine d'autres blessés dans une attaque contre un hôtel fréquenté par les travailleurs et les membres du gouvernement somalien. La branche libyenne du groupe État islamique a revendiqué les attentats perpétrés ce vendredi à Al-Koba dans l'Est libyen. Attentats qui ont fait au moins 31 morts et 40 blessés.
Au moins 30 personnes ont péri hier dans des attaques de Boko Haram. Les combattants de la secte islamiste ont attaqué 2 villages près de Chibok dans le nord-est du Nigeria où le groupe islamiste avait enlevé plus de 200 lycéennes en avril dernier.
La présidente du Liberia, bientôt à Washington, Barack Obama recevra Ellen Johnson Sirleaf la semaine prochaine, plus précisément le 27 février à la Maison-Blanche.
En Centrafrique, une vingtaine d'organisations de défense des droits de l'homme proposent la création d'une cour pénale spéciale pour juger les crimes perpétrés dans le pays depuis le 1er janvier 2012. La demande a été adressée au CNT, le Parlement de transition.
Au Burundi, le ministre de l'Intérieur a mis en garde contre toute tentative de soulèvement dans le pays au lendemain de la grande manifestation de soutien à Bob Wugurika, le directeur de la radio RPA, partenaire de la VOA. Il vient d'être libéré sous caution. Le gouvernement accuse l'opposition qui est prête, selon lui, à tout faire pour saboter les élections à venir.
Conflit au Soudan du Sud. La délégation gouvernementale a quitté Djouba pour Addis Abeba, où doivent reprendre des pourparlers de paix. Selon l'AFP, l'organisation intergouvernementale est-africaine donne aux belligérants jusqu'au 5 mars pour trouver un accord définitif.
Enfin, en Ukraine, 2 soldats ont été tués et 3 autres blessés au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui un porte-parole de l'armée gouvernementale. Et l'administration séparatiste de la ville de Donetsk, fief des rebelles, a affirmé qu'une femme civile a été tuée dans un bombardement.
Voilà, la mise en onde de cette édition a été assurée par Michel Joseph, Morgane Guériec et Chérubin Dorsil à la présentation.
Merci à Tian Wang à la console technique. Merci à toute la rédaction. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Clédou FM 90.5 Sikasso Mali et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.